Mon cher docteur, quelques cas de variole assez peu nombreux, il faut le dire, se sont déclarés.
Mécanique des épidémies.
Les journaux, autant que les autorités, en parlent comme s'il s'agissait d'un véritable danger national contre lequel il faut à tout prix lutter.
Elle a fait des ravages depuis l'Antiquité. Et quand on avait la chance d'y survivre, on en sortait aveugle ou défiguré. L'épidémiologiste Renaud Piarou, professeur et médecin de terrain, détective sur les traces des pandémies, vous conduit jusqu'à l'origine de ce fléau qui a dépeuplé des continents, la variole. C'est cet ennemi mortel de l'humanité qui a aussi rendu possible, près de 100 ans avant Pasteur, l'invention même du principe de vaccination. Et c'est encore la même maladie qui est à l'origine d'un des plus grands succès de la médecine moderne, puisque la variole a été éradiquée de la surface de la Terre grâce à une ambitieuse et intelligente politique internationale menée il y a plus de 40 ans. Des principes efficaces, pourtant malheureusement oubliés aujourd'hui quand il s'agit d'affronter d'autres pandémies.
Premier épisode, comment la variole est devenue notre ennemi mortel ?
La variole est une maladie virale, comme le sida, comme le coronavirus, comme la grippe. C'est un virus un peu plus sophistiqué, c'est un virus à ADN, donc qui est capable de fabriquer plus de gènes, il y a autour de 200 à 400 gènes selon les virus de la variole. Et c'est un virus qui probablement nous vient des rongeurs, en tout cas. La diffusion semble avoir commencé il y a à peu près 3 à 4 000 ans, probablement dans la partie nord-est de l'Afrique, dans la corne de l'Afrique. À ce moment-là, émergent trois virus. Un virus qui va vers des rongeurs, vers une sorte de gerbille qui vit dans les savanes un peu sèches au nord de la forêt africaine. Un autre qui va rejoindre les camélidés. Ça va être le camelpox, le premier, celui des gerbilles, c'est le tatérapox. Et puis, un virus qui va chez l'homme, qui est le virus de la variole.
Il s'agit d'un ultravirus qui se conserve à l'abri de la lumière.
Cette maladie infectieuse est-elle plus contagieuse que celle qu'on décrit couramment, telle que rougeole ou scarlatine ?
Indubitablement.
Alors, la transmission du virus de la variole est d'abord une transmission par les petits postillons, donc transmission aérienne, et puis une transmission par contact, par voie cutanée, comme on a actuellement finalement cette double transmission aérienne et transmission par contact dans le monkeypox, qu'on appelle en France la variole du singe. Mais le monkeypox se transmet pas très bien, en tout cas moins bien que ne se transmettait la variole qui a donné des épidémies considérables.
Et c'est cette contagiosité extrême qui en fait toute la gravité, car elle persiste à tous les stades de l'affection, même le cadavre est contagieux.
On a assez peu d'informations sur le nombre de morts, mais ça c'est parce qu'on n'était pas très très bien équipé en termes de surveillance épidémiologique, par exemple du temps des Romains, des Grecs ou des dynasties anciennes en Chine. Donc on ne sait pas trop, ou du temps des pharaons. Là où on a des chiffres plus précis, c'est au XVIIe et au XVIIIe siècle, où la variole finalement touchait à peu près tout le monde. Et parmi ceux qui attrapaient la variole, on avait une mortalité de l'ordre de 25, on dit officiellement même une létalité de l'ordre de 25 à 30%. Finalement, donc, ça fait beaucoup, beaucoup de monde qui meurt de la variole, avec des formes épidémiologiques différentes. Si c'est un nouveau territoire, tout le monde est atteint en même temps, c'est une catastrophe terrible. Par exemple, l'arrivée de la variole dans le Nouveau Monde. Si c'est une variole qui est là depuis longtemps, les adultes, ce sont des gens qui ont survécu à la variole. La plupart ont des cicatrices de variole, on verra avec les signes cliniques. Donc ce sont plutôt les enfants qui sont touchés. Et la variole devient une maladie infantile, mais une maladie infantile particulièrement grave qui va tuer un enfant sur trois, un enfant sur cinq.
On doit définir la variole comme une fièvre éruptive, infectieuse, très contagieuse et caractérisée par une éruption pustuleuse spéciale.
D'abord, il y a une période assez longue d'une douzaine de jours pendant lesquels les gens n'a aucun symptôme. Ça a une importance parce que ça veut dire pendant 12 jours, quelqu'un qui est contaminé peut voyager, peut voir plein de gens, etc. Il n'est pas encore contagieux, mais il peut se déplacer, ça devient compliqué à suivre. Et puis au 12e jour, la maladie commence par un épisode de fièvre, de maux de tête, de courbature, enfin on pourrait appeler ça un syndrome grippal. La fièvre peut monter très haut, hein, 39-40. Au 3e jour de la fièvre, commencent à apparaître des petites taches rouges, des macules, on dit. Et puis, ces taches deviennent, au bout de quelques jours, un petit peu plus surélevées. On parle de papules. Et apparaissent des vésicules. Alors là, c'est des petites gouttes d'eau au départ. Et puis, petit à petit, cette vésicule va se troubler. C'est une vésicule qui est très enchâssée dans le derme et elle va devenir blanche, laiteuse. Alors si la personne survit, parce que là, elle a déjà eu pas mal de chances de mourir de la variole, la vésicule va s'ombiliquer au milieu et puis va apparaître une croûte. Et encore pendant des jours et des jours, ces croûtes vont se dessécher et sauter, laissant une cicatrice. Tout ça se fait sur une période d'un mois à partir du début de l'éruption. Donc quelque chose de très long, très invalidant. Quand au stade des croûtes, ça gratte énormément aussi. Ça peut atteindre la cornée, donc ça donne des cécités. Et finalement, 25-30% des personnes qui ont la variole peuvent mourir. Et puis, il y avait ces séquelles esthétiques qui ont joué un rôle aussi dans la perception de la variole, avec ces cicatrices qui touchaient, je le rappelle, la majorité de la population adulte à certains moments. Le visage grêlé par les cicatrices de variole. Et à côté de ces cicatrices, il y avait aussi des séquelles neurologiques. La variole était une maladie vraiment... Même quand on s'en réchappait, on avait des séquelles assez fréquemment. C'était un fléau pour l'humanité. Pour remonter dans le temps, on a deux méthodes essentielles. La première, c'est d'étudier l'ADN des souches récentes et de regarder d'autres virus. Par exemple, il y a des poxvirus qu'on va trouver chez la vache, le cowpox, chez le cheval, le horsepox, le monkeypox. Et ces poxvirus, finalement, ont beaucoup de gènes en commun, beaucoup de l'ADN se ressemble et on aligne en quelque sorte l'ADN de tous ces poxvirus. On regarde à quelle vitesse ils ont évolué dans le temps, parce qu'on a quand même des souches un peu anciennes, disons il y a 200, 300 ans au maximum pour le virus de la variole, mais ça donne déjà des informations. Et sur cette base-là, on dit ben ils étaient similaires. Par exemple, entre certains virus, donc on a vu le tatérapox des gerbilles, le camelpox des dromadaires, était à peu près similaire au virus de la variole il y a 3500 ans. C'est comme ça qu'on peut dire les virus se sont séparés à partir de ce moment-là. La deuxième méthode est plus classique, c'est d'aller chercher dans les textes des informations. Il y a des textes très précis, par exemple en Chine, au 4e siècle après Jésus-Christ. Il y a d'autres textes qui sont beaucoup plus ambigus parce que finalement colorés déjà par une vision de la médecine. Et je pense au texte de Galien. Galien est un peu le père de la médecine arabe et européenne, du moins pendant jusqu'au 19e siècle, avec une théorie des humeurs qui était que si on était malade, c'est qu'il y avait un déséquilibre entre différentes humeurs, la lymphe, le sang, la bile jaune, la bile noire. Je ne vais pas détailler, mais cette description, évidemment, ne va pas chercher à associer des signes cliniques à une maladie précise. Après, on va retrouver, à part ces textes chinois, on trouve des textes arabes qui décrivent très bien la variole dès le 7e siècle, 8e siècle. Et puis, on comprend qu'elle diffuse très fortement au fil des siècles. La dernière méthode, donc, c'est au travers des momies ou des personnes dont le corps aura été conservé correctement. C'est aussi quelque chose qui s'est passé du côté de la Lituanie. une personne momifiée, mais par le froid, il y a 300 ans, on a pu retrouver l'ADN et savoir justement que c'était la variole et comment était le virus de la variole à l'époque. Pour ce qui est des momies égyptiennes, on a cette information sur trois momies, dont celle de Ramsès V, 1100-1200 avant Jésus-Christ. Et on voit sur la momie des lésions qui évoquent furieusement la variole, avec des zones de la peau qui sont trouées, une atteinte de la face, une atteinte du tronc. Ça évoque quand même bien la variole et on voit pas trop quelle autre maladie ça pourrait être. Et ça correspond bien, la variole a circulé en Égypte à ce moment-là. Peut-être qu'après, elle est partie plutôt vers l'Inde. Et de l'Inde, elle a diffusé vers la Chine et elle est revenue ensuite vers l'Europe. Ce qui est important aussi pour la variole, c'est qu'il faut des communautés humaines nombreuses. Sinon, elle passe, elle s'éteint aussitôt, puisque quand une personne est malade, soit elle meurt, soit elle guérit. Mais si elle guérit, elle devient résistante à la variole, elle est immune. Et à ce moment-là, la maladie ne peut plus passer.
J'en ai déduit que la variole est une maladie beaucoup plus grave que je ne l'avais jamais pensé. Mais je reste étonné de l'importance qu'on accorde à une épidémie aussi localisée.
Le foyer originel est plutôt du côté de la Corne de l'Afrique. Et ensuite, effectivement, les zones où il y a un peuplement suffisant sont la vallée du Nil à ce moment-là. Et de l'autre côté de l'océan Indien, l'Inde est aussi un endroit où il y a beaucoup, beaucoup de monde. Mais on n'a pas de texte précis. Enfin, faut peut-être traduire la variole en hiéroglyphe. On ne sait pas faire. C'est pas sur la pierre de Rosette. Donc, c'est très, très difficile de reconstituer l'histoire de la variole dans ces périodes-là. La variole en Europe, c'est déjà peut-être la cause de la première pandémie. La première pandémie, c'est une maladie qui survient au IIe siècle du temps des Romains et qu'on appelle la peste antonine. Là, il y a deux empereurs, il y a Marc Aurèle et puis Lucius Verus. Et Lucius Verus fait la guerre du côté de l'actuel Irak face à l'actuel Iran. Et il est dit que le général qui conduit les armées de Lucius Verus a fait le sac d'une ville qui s'appelle Séleucie et que ça a entraîné la colère d'Apollon. Et donc, il est sorti du temple d'Apollon, une espèce de fumée, et ensuite c'est retombé sous la forme de cette maladie avec des pustules, etc. Alors, c'est plus une narration destinée à discréditer à la fois Lucius Verus et surtout ce général. Et donc, dans l'histoire, il est présenté comme celui qui a amené la variole dans l'Empire romain. En réalité, il semble que la maladie était déjà arrivée dans l'Empire romain à ce moment-là, par la mer Rouge et probablement plus par l'Égypte. Toujours est-il qu'on a cette maladie qui est probablement, mais pas certainement, la variole, qui va diffuser dans l'ensemble du pourtour méditerranéen. On a là un empire romain qui fait à peu près 75 millions d'habitants et on considère qu'elle a tué à peu près 10% des habitants. Quoi qu'il en soit, dans l'Empire romain, cette première pandémie, c'est certainement une pandémie, ça touche vraiment plusieurs continents, depuis l'Afrique, l'Asie et l'Europe, et avec un impact fort. Cette première pandémie ne va pas donner lieu à une installation à demeure de la variole. Il y aura probablement une deuxième vague quelques 15 ans après, peut-être après d'autres vagues. Pareil, on n'a pas les textes, on n'a pas la surveillance épidémiologique pour retrouver. Et finalement, la variole, ou cette maladie-là, en tout cas, disparaît. Elle est par contre installée à demeure autour de l'océan Indien, peut-être en Inde essentiellement, au Moyen-Orient. Elle va petit à petit s'installer. Et on va retrouver la variole avec l'avancée des Arabes sur l'Afrique du Nord, donc contre l'Empire romain, mais là on est 600 et quelques. 7e siècle, 8e siècle, et la variole va arriver, revenir en Europe, en Espagne et puis un peu en France. On a une description clinique qui est beaucoup plus probante, mais elle ne s'installe pas encore, et elle va vraiment s'installer progressivement avec les croisades. Donc probablement que les croisés revenant du Moyen-Orient reviennent avec la variole et la variole s'installe en Europe. En tout cas, quand on arrive finalement au Moyen-Âge, en avançant dans le Moyen-Âge, la variole est là, Simplement, on n'en parle pas. Je ne crois pas, enfin, j'ai pas tout lu Michelet, mais il parle très peu de la peste, mais il parle pas du tout de la variole comme d'un problème. Je pense qu'à ce moment-là, la maladie est devenue endémique. Elle touche les enfants. Elle n'est pas vécue comme une catastrophe générale. Elle est vécue comme des catastrophes éventuellement familiales, mais pas de la même manière que la peste qui a été terriblement meurtrière elle aussi.
Installée en Europe, au Moyen-Âge, la variole s'exporte ensuite vers le Nouveau Monde avec les conquistadors. Son impact y sera tel que la maladie va contribuer à dessiner la carte des influences géopolitiques jusqu'à aujourd'hui.
À la fin du Moyen-Âge, l'Europe a plusieurs particularités. Elle est soumise à la peste et soumise aussi à la variole. Et en particulier, la variole est devenue une maladie endémique, enracinée. Et plus elle est enracinée, plus elle va toucher plutôt les sujets jeunes, les enfants. Et finalement, les adultes qui passent ce cap-là vont vivre une vie en étant immunisés contre la variole. Ce qui permet quand même à l'Europe de se développer, de revenir à une croissance démographique. Il y a eu vraiment un creux avec la grande peste au XIVe siècle, mais ça remonte. Et puis, l'organisation des pays européens leur permet de commencer à vouloir découvrir le monde.
Deuxième épisode, une arme virologique à la conquête du Nouveau Monde.
L'histoire de la variole est fort curieuse. Très répandue en Égypte et dans l'Inde depuis de nombreux siècles, elle atteint l'Europe vers le Xe siècle. Pendant près de 500 ans, elle ne fit pas de grands ravages.
Ce qui se passe alors, c'est une confrontation entre des civilisations qui n'ont pas évolué de manière identique. Christophe Colomb est plutôt bien accueilli. Il n'amène pas tout de suite la variole, quand même. Mais ce que veulent les Espagnols, c'est de l'or. Et ils poussent un peu les populations d'Haïti, donc d'Hispaniola ou de Cuba, à chercher de l'or. Et assez rapidement, avec ce flux, cette maladie qui quand même circule en Europe et circule aussi en Afrique. Le premier flux va amener une première épidémie de variole. On pense que c'est vers 1507, donc une quinzaine d'années seulement après l'arrivée des premiers conquistadors. Première épidémie de variole, peut-être aussi d'autres maladies comme la rougeole. Et très vite aussi, comme les populations d'Arawak sont en train de décliner, la nécessité de faire venir des esclaves. Et on arrive en 1520, et 1520, on est à environ 15 000 autochtones, au lieu de 500 000 à 1 million en 1492. Donc un effondrement populationnel lié à la fois aux guerres provoquées par les conquistadors, mais aussi beaucoup par les maladies et à premier lieu la variole. Et donc cet effondrement populationnel met les Espagnols face à des territoires qui sont plutôt verdoyants, luxuriants même, et la nécessité d'avoir de la main d'œuvre. C'est vraiment une industrie de l'esclavage qui se met en place. On est donc début du XVIe siècle, 1517-1518, on a à la fois une épidémie de variole qui se répand dans les Antilles, Saint-Domingue, Hispaniola, Cuba, et la poursuite de l'expansion des conquistadors à partir de Cuba. Une flotte va, avec Hernán Cortés, va arriver sur les côtes mexicaines et il prend la tête d'un empire. Alors ça ne dure pas très très longtemps. Et il va se passer deux choses. La première, c'est que le gouverneur de Cuba, espagnol lui aussi, devient jaloux de la réussite de celui qu'il a envoyé. Donc il en envoie un autre capitaine, Pánfilo de Narváez, qui va débarquer, lui, en 1520, l'année d'après, Et il débarque, mais avec lui débarque aussi un esclave porteur de la variole. Et en fait, involontairement, il amène la variole sur le territoire actuel du Mexique qui va diffuser à toute vitesse. L'arrivée de cette épidémie de variole, qui va être extrêmement meurtrière, va à la fois affaiblir les Aztèques, mais aussi les démoraliser totalement, parce que on va avoir ces troupes espagnoles qui ne semblent pas du tout affectées par cette maladie qui décime les Amérindiens de cette partie-là des Amériques.
Un seul soldat de l'armée norvège apporte la variole à Mexico. Résultat, 3 500 000 morts.
Donc pas de maladie chez les Espagnols qui déjà ont le fer, les chevaux, les belles cuirasses, etc. Et on va avoir la même histoire qui va se faire finalement quelques années plus tard. Déjà la variole a fait son chemin, elle est partie vers le sud et vers le sud elle trouve un autre empire avant même les conquistadors. Elle trouve l'empire Inca et l'empereur Inca meurt. Donc sur cette guerre de succession arrive Francisco Pizarro qui lui aussi avec une petite troupe va aller jusqu'à la capitale des Incas à Cusco et finalement faire le même coup que Cortés avait fait pour l'Empire Aztèque, il le fera pour l'Empire Inca.
Au total, on calcule qu'au XVIIe siècle, 8 sur 10 des habitants du monde furent victimes de la variole. Un quart de la population de chaque pays fut défigurée ou tuée par cette maladie.
On a parlé jusqu'ici de l'Espagne, un tout petit peu du Portugal. On a laissé tomber les deux autres nations atlantiques de l'Europe, qui sont, on dit la Grande-Bretagne, mais là c'était surtout l'Angleterre et la France. Alors la France et l'Angleterre se sont réveillées un peu tard, elles étaient plus loin d'ailleurs, hein, puisque c'est plus compliqué de traverser l'Atlantique Nord que d'aller vers les Alizés pour rejoindre les Grandes Antilles. Mais elles se sont dit quand même, ce serait pas mal nous aussi d'avoir un empire et de coloniser un empire. Et donc là encore, on a l'arrivée de colons qui vont essayer d'occuper un espace. La différence avec l'Espagne et le Portugal, c'est que, en particulier, hein, les Britanniques, les Anglais, vont essayer d'habiter le territoire qui va être le territoire des États-Unis, du Canada, et donc finalement vont plutôt repousser les Amérindiens qui sont beaucoup moins organisés, hein. On n'a pas d'empire à ce moment-là, il y a un début d'agriculture du côté du Mississippi, mais on est plutôt chez des chasseurs-cueilleurs qui se font la guerre entre eux en plus. Donc les Anglais veulent occuper ce territoire et la variole les aide déjà d'une manière naturelle, spontanée. Les Français sont un peu plus au nord, du côté du Québec, plutôt d'ailleurs dans une idée de faire du commerce et de travailler avec les tribus indiennes du coin pour récupérer des fourrures et c'était ça l'intérêt pour les Français à ce moment-là. Toujours est-il que si on met les Français, si on met les Anglais quelque part assez proches les uns des autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se faire la guerre. Et donc, une série de guerres franco-britanniques, des guerres coloniales en Amérique du Nord vont avoir lieu. Donc avec finalement, de temps en temps, la variole qui joue un peu un rôle d'arbitre. C'est là que la variole a peut-être été utilisée comme arme de guerre, c'est-à-dire volontairement. On est en 1763, les Anglais ont progressé, ils sont maintenant dans la région des Grands Lacs américains et une confédération de tribus indiennes leur fait face et bon, ils voudraient bien s'en débarrasser et le gouverneur de toutes les troupes anglaises en Amérique du Nord, Sir Geoffrey Amherst, écrit, c'est pour ça qu'on en a un témoignage, écrit au colonel qui commande les troupes, Henry Bouquet, Henri Bouquet, Et elle lui suggère un stratagème. Il utilise ce mot de stratagème qui consiste à faire parvenir aux Indiens des linges ou plutôt des couvertures contaminées par la variole. Ça veut dire que la notion de contamination était bien perçue et effectivement c'est un moyen qui peut tout à fait être capable de donner cette transmission par la peau. Le colonel lui répond, je vais essayer, faisant bien attention de ne pas me contaminer moi-même. On ne sait pas si ça a été fait, si ça a marché, mais très clairement la variole a quand même joué un rôle très important pour décimer les populations amérindiennes et progressivement les colons anglais, puis britanniques, puis européens plus largement vont occuper la partie est des Amériques.
Vous feriez bien d'essayer d'infecter les Indiens avec des couvertures ou par toute autre méthode visant à exterminer cette race exécrable. Lettre du général Amherst au colonel Henri Bouquet.
Plus tard, la France aura un peu sa revanche parce que les colons anglais et britanniques finissent par vouloir prendre leur indépendance vis-à-vis de la nation de tutelle, de la couronne britannique. Et donc démarre la guerre d'indépendance. Et la variole va encore jouer un rôle. Alors les Français vont appuyer les Américains. Et on a deux épisodes qui sont très importants finalement. Le premier, c'est le siège de Boston. Les Anglais sont à Boston. George Washington fait le siège de Boston. Et ce siège va durer longtemps parce qu'il y a de la variole à l'intérieur de Boston et que George Washington a peur pour ses troupes. Il attend. Ça veut dire que les militaires ont compris l'importance de la variole. Alors les troupes américaines étaient plus vulnérables à la variole que les Britanniques, parce que les Anglais venaient d'un endroit où la variole était très bien installée. C'est dans ce qui va devenir les États-Unis, la variole sévit encore par épidémie avec des périodes de non-transmission. Donc relancer une épidémie est quelque chose qui pourrait poser des problèmes, en particulier pour les troupes américaines. Donc c'est important, effectivement, George Washington a bien compris l'enjeu, il attend. Et quand les Anglais quittent Boston, il va envoyer des troupes, mais il va vérifier que les hommes qu'il envoie sont des hommes porteurs de cicatrices de la variole. Donc, premier élément qui montre l'importance de la variole à ce moment-là. Deuxième élément qui va jouer là justement contre les troupes américaines. On sait que les États-Unis, donc les colonies situées sur le territoire des États-Unis, ont obtenu leur indépendance, mais pas le Canada. Et il semble bien que, là encore, ce soit la variole qui ait fait que les Britanniques immunisés se sont affrontés avec des populations qui vivaient beaucoup plus à l'abri et qui, eux, n'avaient pas cette immunité. Et donc les épidémies de variole, en particulier autour de Québec et sur le reste du Canada, ont donné l'avantage aux Britanniques. Et donc le Canada est resté sous la couronne britannique, alors que les États-Unis sont devenus indépendants. On arrive de cette manière à la fin du XVIIIe siècle. Les choses vont changer pour la variole à partir de là, mais on voit que la variole a vraiment conduit les batailles et changer le cours de l'histoire, détruit des empires, permis à certains endroits, par exemple aux États-Unis, de se libérer de la tutelle britannique, alors d'autres endroits, permis à la couronne britannique de garder le Canada. Finalement, la variole a été un grand orchestrateur de l'histoire, de toute la période qui va de la Renaissance jusqu'au 19e siècle, 18e, 19e siècle.
Grande ordonnatrice des rapports de force géopolitiques, la variole a aussi permis une avancée spectaculaire dans le progrès de l'humanité. C'est en s'y intéressant de près qu'un médecin anglais a eu l'idée même du principe de la vaccination.
Mécanique des épidémies, 6e saison, La variole, par Renaud Piarou.
L'histoire de la variole va connaître un tournant au XVIIIe siècle. Alors, ce tournant, il est à la fois provoqué par des pratiques médicales qui se sont mises en place dans les pays arabes, un peu en Afrique aussi, en Chine, mais jusqu'ici pas en Europe. Et au XVIIIe siècle, l'Europe quand même commence vraiment à dominer le monde. Et ce qui se passe en Europe va avoir des conséquences vraiment très importantes.
Troisième épisode, variolisation et vaccination, le début de l'espoir.
Vers 1720, donc la Turquie pratique une technique qui consiste à inoculer par voie cutanée la variole aux enfants, plutôt que d'attendre qu'ils l'attrapent naturellement. Ils prennent la sérosité des pustules de variole et ils incisent la peau d'un jeune enfant et ils y posent ce pus de manière à ce que le corps soit en contact avec le virus de la variole. Ça peut paraître complètement absurde de donner une maladie à un enfant avant même qu'il ne l'attrape. La maladie toujours dure un mois, la convalescence dure un mois, donc c'est rude, hein. Mais c'est ce qu'on appelle la variolisation, finalement, va permettre de sauver énormément de vies parce que, au lieu d'avoir 25 à 30%, on a 1 ou 2% de mortalité, ce qui n'est pas du tout la même chose. Lady Montagu est une femme brillante, cultivée. C'est la femme de l'ambassadeur du Royaume-Uni en Turquie. Elle-même a fait la variole et n'en a pas gardé un bon souvenir. Elle décide de varioliser d'abord son enfant et puis ensuite elle va rentrer en Angleterre. Elle va faire la publicité de la variolisation. La princesse de Galles va faire la même chose qu'elle. Donc elle va finalement réussir à convaincre un certain nombre de chefs d'État et de personnalités de faire cette variolisation. Un point très important pour expliquer cette variolisation et le succès relatif, mais quand même un certain succès qu'elle a eu parmi les élites européennes, est le fait qu'à ce moment-là, la variole est particulièrement sévère et va faire particulièrement des ravages parmi les têtes couronnées européennes. Si on prend le début du XVIIIe siècle jusqu'à la mort de Louis XV. Louis XV meurt de la variole. La reine Marie II d'Angleterre, la reine Éléonore de Suède, l'empereur Joseph d'Autriche, le tsar Pierre II de Russie. Bref, tous les pays ou presque toutes les grandes nations européennes voient leur chef d'État mourir de la variole. Et donc la variolisation, finalement, va être considérée comme quelque chose de moins grave. Et souvent, d'ailleurs, ces maladies qu'on connaît maintenant comme maladies infantiles sont plus graves chez les adultes que chez les enfants. La variolisation consiste à inoculer le virus de la variole à une personne, par voie transcutanée, avec une incision, mais c'est le virus de la variole. Et ce qui va créer la vaccination, c'est une démonstration faite par Edward Jenner en 1796. C'est un médecin britannique, il travaille dans une zone d'élevage, donc il est en contact avec des personnes qui traient les vaches. Et il apprend, comme d'autres l'ont vu aussi, que les personnes qui sont au contact des vaches, qui font la traite, peuvent avoir de temps en temps des lésions. Des lésions qui ressemblent aux lésions de la variole, sauf qu'elles sont localisées à la main, à l'avant-bras. Et en fait, c'est ce qu'on va appeler la variole de la vache. En tout cas, le virus, on va l'appeler Cowpox, le virus de la variole de la vache. Et ce qu'il apprend aussi, c'est que ces personnes-là, répondent presque sans incident à la variolisation quand elle est faite alors que les autres font quand même une fièvre importante, etc. Donc, il fait le rapprochement, il se dit peut-être que le fait d'avoir eu ce premier contact avec ces pustules de la vache protège contre la maladie qu'on appelle variole. On va pas dire le virus de la variole, parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un virus à ce moment-là.
Le nom d'Édouard Jenner demeure lié à jamais à la lutte victorieuse contre une des plus terribles maladies, la variole, qui peupla les cimetières de millions de cadavres et qui laissa d'horribles traces sur le visage de ceux qu'elle ne tuait pas. Il remporta cette victoire parce qu'il sut tirer des conclusions scientifiques d'un vieux remède de bonne femme. « Oh, moi, je ne peux pas attraper la variole parce que j'ai déjà eu la variole des vaches. » Cette maladie affecte le pis des vaches et souvent les personnes qui les traitent la contractent sous une forme bénigne. La jeune paysanne ne faisait que répéter l'idée très répandue dans les régions laitières d'Angleterre, selon laquelle les personnes qui ont eu la variole des vaches sont immunisées contre la variole des humains.
Et il va faire un premier essai sur le fils de son jardinier. Il va donc lui inoculer le virus qui vient de la vache, un petit bout de pustule de vache. Et surtout, après quelques temps, il va procéder à la variolisation. Et ce gamin ne va faire aucun problème. Il en conclut que c'est probablement protecteur. Il attend un peu et puis il refait ça. Il reproduit cette manipulation sur une quinzaine de personnes. Et il finit par en déduire que l'inoculation de ces pustules provenant du pis de la vache protège contre la variole.
Il fit un rapport à la Société Royale, on le lui renvoya. Sa théorie avait soulevé une violente opposition. Ainsi, on allait jusqu'à dire que l'inoculation de la vaccine donnerait un aspect bovin au visage des personnes inoculées ou que ces personnes mugiraient comme des vaches et que leur corps se couvrirait d'un pelage semblable à celui de ces animaux. Pourtant, la grande découverte de Jenner devint du domaine public. Des médecins, chaque jour plus nombreux, l'adoptèrent et, de nos jours, l'inoculation antivariolique des enfants se fait systématiquement dans un grand nombre de pays.
Et on est parti vers ce qu'on appelle la vaccination. On part de la variolisation, on arrive à la vaccination, parce qu'on est parti du virus de la variole humaine au virus de la vache. Vaccine, vaccinus, la vache. Et il va y avoir un certain engouement pour la vaccination.
Un des plus touchants témoignages de reconnaissance que Jenner reçut de son vivant fut celui d'une tribu d'Indiens américains qui lui envoyèrent une ceinture et une corde de wampum, et lui écrivirent « En témoignage de notre reconnaissance pour votre précieux cadeau, nous prions le grand esprit de veiller sur vous en ce monde et dans le monde des esprits. »
Il y a même une expédition qui va partir, le roi d'Espagne va envoyer une expédition dirigée par un scientifique qui s'appelle Balmis, qui va faire le tour du monde, qui va même se scinder en deux expéditions pour aller vacciner toutes les populations des colonies espagnoles. Ce qui est intéressant, c'est le mode de transport du vaccin. C'est qu'on ne sait pas fabriquer le virus de la variole de la vache. C'est très compliqué de transporter des vaches et de leur inoculer ce virus pour l'entretenir. Par contre, ce qui a été fait, c'est de partir avec un groupe d'enfants, un groupe d'une vingtaine, 20-25 enfants, pour pouvoir faire la traversée, pour arriver par exemple en Amérique du Sud. Et on va inoculer le virus à l'un et puis attendre qu'il fasse les lésions, puis au deuxième, puis au troisième, etc. C'est des méthodes qui posent problème maintenant, certainement. Mais c'était le seul moyen qu'ils avaient, ça protégeait les enfants de la variole quand même. C'était pas totalement sans bénéfice personnel. Mais en tout cas, de bras en bras, ce virus de la vaccine a circulé comme technique de vaccination. Ça a amené quand même certains problèmes. C'est, tant que c'est des enfants jeunes, et c'est rare qu'ils amènent des maladies, mais il y a une bactérie, le streptocoque, qui peut être sur la peau de certains, et en inoculant le virus de la vaccine, on inocule aussi éventuellement un streptocoque, donnant des lésions là beaucoup plus graves avec des destructions cutanées voire musculaires. Et des septicémies. C'était rare, mais ça pouvait arriver. Et puis, il y a une autre maladie, on a parlé grande vérole, petite vérole. Donc, la variole, c'est la petite vérole. La grande vérole, c'est la syphilis. Et la syphilis a trouvé là un moyen de transmission. Et donc, on a eu des cas de syphilis liés à la vaccination. Et la dernière chose, c'est que Jenner était convaincu que son vaccin était un vaccin qui fonctionnait à vie. De même que le virus de la variole, le vrai, quand on l'attrape, protège pour la vie. Mais ce n'est pas tout à fait le même virus. La protection, c'est ce qu'on appelle en immunologie une protection croisée, et elle n'est pas permanente. Et donc, il y a eu des cas de variole chez des personnes vaccinées, et ça nous rappelle les débats actuels hein, sur la Covid, et le fait d'avoir présenté le vaccin comme plus efficace qu'il ne l'était en réalité, a largement contribué à son discrédit auprès d'une certaine population. On croit que le discours anti-vax est un discours récent. En réalité, le discours anti-vax, structuré comme il l'est actuellement, existait dès l'invention de la vaccination. Dès la fin du XVIIIe siècle, la vaccination est inventée en 1796. Dans les années qui suivent, démarre le discours anti-vax. Alors, il démarre sur plusieurs thématiques, plusieurs centres d'intérêt. Le premier, c'est le côté naturel. On va pas nous donner quelque chose. La variole est naturelle, c'est une maladie naturelle. On ne va pas s'opposer à la nature. On va pas s'opposer à Dieu. Si Dieu nous amène la variole, c'est qu'on doit avoir la variole. Dans le côté naturel aussi, c'est que c'est important d'avoir ces maladies infantiles. Ça renforce notre immunité. Et dans certains cas, les opposants à la vaccination étaient presque tenants de la variolisation, qui était quand même beaucoup plus dangereuse, parce que ça venait de l'homme, tandis que la vaccination venait de la vache. Avec des histoires, des caricatures de personnes vaccinées chez qui les cornes commençaient à pousser, des histoires de femmes qui se mettaient à être amoureuses de taureaux parce qu'elles avaient été vaccinées. Enfin, des choses pas très très logiques et c'est vraiment du complotisme, en quelque sorte. Ça existait dès la naissance de la vaccination. Liberté de faire ce que je veux de mon corps, y compris de transmettre une maladie mortelle à mon voisinage, et la défiance envers les élites, puisque les élites se vaccinaient, alors je me méfie, ils ont une idée derrière la tête, ils veulent nous contrôler au travers de la vaccination. Au fil du temps, l'efficacité de la vaccination va jouer contre la vaccination. Au 19e siècle, il y a un effondrement de la transmission de la variole. Mais qui dit diminution de transmission dit désintérêt progressif de la population vis-à-vis de la vaccination. Et il est important à ce moment-là de remobiliser. Et pour remobiliser, certains auteurs ont pu intervenir finalement d'une manière assez efficace. Je pense particulièrement à Charles Dickens, qui, dans un livre qui s'appelle Bleak House, le titre en français est La maison d'Apprevant, l'héroïne principale, et s'appelle Esther Summerson, va avoir la variole. Alors, il ne dit pas qu'elle a la variole, parce que la maladie est encore très connue. Par contre, il a décrit avec moult détails cette maladie, et surtout la défiguration qu'entraîne la maladie quand l'héroïne se retrouve pour une première fois face à un miroir. Elle est restée très longtemps au lit et là, elle ne se reconnaît plus. Et je pense qu'il y a là une volonté de Charles Dickens de motiver en disant « mais la variole, c'est quelque chose de grave ». Et c'est un peu le problème qu'on a dans certaines maladies actuellement, comme la rougeole. On a du mal à dire « la rougeole, c'est quelque chose de grave ». Et donc, parce qu'il y a beaucoup moins de cas de rougeole, c'est moins un problème, alors que on sait que les épidémies sont encore gravissimes, en particulier en Afrique, là où les gens sont pas bien vaccinés. Ce qui est intéressant, c'est que Jenner a compris que avec la vaccination, on aurait peut-être l'occasion de se débarrasser totalement du virus de la variole. Il le dit dès la fin du XVIIIe siècle, tout début du XIXe siècle. Si on applique correctement la vaccination et les autres mesures, on pourrait peut-être s'en débarrasser définitivement.
Le rêve d'Edouard Jenner va devenir réalité. Au XXe siècle, la variole sera bien la première maladie éradiquée grâce à la médecine moderne.
Une victoire à inscrire au crédit de l'humanité. La bataille de la variole a été gagnée. D'après l'Organisation mondiale de la santé, ce fléau millénaire qui a fait plus de morts que n'importe quelle épidémie ou n'importe quelle guerre, ce fléau a complètement disparu.
Le XXe siècle voit d'abord la variole éliminée, États-Unis-Canada, vers 1952, et à peu près au même moment, 1953, en Europe.
Quatrième épisode, l'éradication de la variole ou les clés du succès.
La vaccination a cassé une à une toutes les chaînes de transmission. Un atout important a été l'implication des militaires, en particulier pour la France, dans sa guerre contre la Prusse en 1870. Les Français n'étaient pas vaccinés contre la variole. Les Prussiens, eux, avaient compris non seulement qu'il fallait être vacciné, même faire des rappels. Il y a eu 125 000 cas de variole d'un côté contre 8 000 de l'autre. Non seulement ils avaient 8 000 cas, mais ils ont une létalité de l'ordre de 5% quand elle était de l'ordre de 20%, 18 et quelques pourcents chez les Français. En tout cas, ça a motivé nos militaires qui se sont dit maintenant, nos troupes, on va les vacciner. Et milieu du XXe siècle, plus de variole en Europe, plus de variole aux États-Unis. Il existe de la variole ailleurs dans le monde. Il en existe en Asie, en particulier au Vietnam. Et dans les années 54-55, on est au moment de la guerre d'Indochine. Et on a là la dernière épidémie, mais qui est une épidémie importée. Un militaire qui a besoin de soins, se trouve d'abord hospitalisé au Vietnam, puis ensuite est transféré dans un hôpital militaire français à Percy. Il est soigné. Et il peut rentrer chez lui, il habite du côté de Vannes. Lui-même a été vacciné, il fait une fièvre, pas grand-chose, une fièvre, pas vraiment d'éruption. Mais son gamin attrape ce qui s'avère être la variole, mais qui n'est pas vu tout de suite comme étant la variole, qui est confondu avec une forme grave de varicelle. Le gamin est hospitalisé, ça va pas trop mal pour lui, je crois qu'il s'en sort. Mais la maladie est transmise dans le service hospitalier et petit à petit, une nouvelle épidémie se déclenche. Et avec une réponse très forte, et à la mi-janvier, vers le 20 janvier, tout est terminé. Des 250 000 personnes ont été revaccinées et l'épidémie est tuée dans l'œuf. La vaccination qui a eu lieu lors de la dernière épidémie importée à Vannes est un exemple tout à fait caractéristique de l'attitude qui permettait de stopper la transmission de la variole dans les pays européens ou aux États-Unis. Dans le reste du monde, le système de soins n'est pas le même, les moyens ne sont pas les mêmes et finalement certaines populations sont un peu livrées à elles-mêmes. Et donc la variole pouvait se maintenir comme ça en certains coins du globe. Ben, il y a quand même des gens qui disent on n'arrivera pas à accéder à toutes les populations, on ne trouvera jamais tous les cas, on ne pourra pas faire ça. Et puis en plus, il y a des formes mineures. Tout ça fait que cette entreprise est vouée à l'échec. Et bien qu'on ait des outils merveilleux, parce que quand même ce vaccin contre la variole, il est peut-être pas efficace à vie, mais il est efficace rapidement. Et puis on a les autres techniques, les systèmes de surveillance qui se mettent en place. Et tout ça donne un contexte où on sent qu'on a les outils. Maintenant, il faut pouvoir mettre en place une stratégie au niveau mondial. Cette stratégie au niveau mondial va être en quelque sorte boostée, encouragée par une sorte de concurrence entre l'Est et l'Ouest. Les deux veulent, donc l'URSS d'un côté, et les pays occidentaux de l'autre ont envie de se débarrasser de la variole, et les Américains mettent beaucoup d'argent dans cette histoire-là. Donc le programme avance, mais va se trouver confronté quand même, on va arriver à un moment sur des zones où on n'y arrive pas. On est en Afrique, par exemple, autour du Nigeria, Niger, Mali, Togo, Bénin, la même chose dans la Corne de l'Afrique, Éthiopie, Soudan, Somalie. Et la même chose en Inde, Bangladesh, enfin, les endroits très, très densément peuplés qui ont en même temps un accès aux soins de moins bonne qualité. Et le coup de grâce contre la variole, la dernière découverte, est une approche qui va être développée face à une certaine pénurie de vaccins par un Américain qui s'appelle William Fuggy, qui va intervenir. Et là, il est au Nigeria et il doit intervenir sur des cas de variole. Et il a l'idée de dire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler autour des cas. Comme ça, identifier les chaînes de transmission et intervenir sur ces chaînes de transmission en vaccinant autour des cas. Et finalement, quand il y a un millier de cas dans un pays, peut-être il y a 20, 30 chaînes de transmission, pas plus. Il suffit de les interrompre, de les trouver, de les interrompre. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de très, très grandes quantités d'équipes mobiles pour intervenir. On peut être efficace avec des dizaines d'équipes mobiles sur un pays. Et c'est comme ça que des pays qui paraissaient inatteignables dans la stratégie de lutte contre la variole finissent par s'en débarrasser. Le dernier cas de variole, finalement, survient à Birmingham, et c'est une variole de laboratoire qui a entraîné un tout petit début d'épidémie qui a tout de suite été arrêté. Et surtout, on a compris qu'il fallait être extrêmement méfiant dans la manipulation du virus de la variole. Il n'y a plus maintenant que deux pays au monde, la Russie et les États-Unis, qui peuvent encore détenir le virus officiellement. Je ne sais pas si c'est bien raisonnable. Zéro serait mieux.
C'est dans un laboratoire de Birmingham qu'une projection accidentelle de virus a coûté en septembre 1978 la vie à une employée. Mais ce cas isolé ne doit pas nous faire oublier les affirmations de l'Organisation mondiale de la santé. Dans les pays comme l'Éthiopie, la Somalie et le Kenya, où les fléaux existaient à l'état endémique, la variole a pratiquement disparu.
Vous voyez ici le bulletin du Center for Disease Control qui signale que le dernier cas de variole endémique a été signalé le 26 octobre 1977. Et depuis, des contrôles très assidus ont été faits dans les pays où sévissait la variole. On a même promis aux gens qui signaleraient le premier cas qu'ils auraient une prime de $1000. Et depuis, aucun cas n'a été signalé.
Trois ans après le dernier cas humain, l'OMS va pouvoir dire, on est en mai 1980, la variole est éradiquée et il n'est plus nécessaire de vacciner les gens contre la variole. C'est important parce que, à force, quand le nombre de cas a diminué, mais que la vaccination a été faite à large échelle, il y avait plus de dégâts causés par la vaccination que par la variole elle-même. La deuxième chose, c'était un côté financier, c'est que ça coûtait cher, ces histoires-là, et de pouvoir arrêter a été quelque chose qui a beaucoup soulagé les bailleurs de fonds. Cette éradication de la variole est quelque chose qui, économiquement, a été extrêmement profitable.
Il n'y aura donc plus de variole de par le monde. La maladie a totalement disparu à l'état endémique. Le dernier cas connu remonte au 26 octobre 1977. 2 ans se sont passés sans qu'aucun autre cas ne soit signalé. 2 ans, c'était précisément le temps que s'étaient donné les experts de l'OMS pour pouvoir affirmer que la maladie avait cessé d'exister. Si bien que le directeur général de l'OMS, le docteur Mahler, a proclamé ce 26 octobre variole jour zéro.
Je proclame au nom de l'OMS le 26 octobre variole jour zéro.
Et bien, depuis 40 ans, pas de retour épidémique, à l'exception quand même C'est un pox virus qui a été maîtrisé, il y en a d'autres, le monkeypox, la variole du singe, qui est une variole plutôt de rongeurs et d'écureuil, est toujours là, en Afrique de l'Ouest d'un côté, en Afrique centrale de l'autre, avec des cas autochtones, plutôt des gens en contact avec le réservoir sauvage. Des transmissions interhumaines qui se font en Afrique. Je ne sais pas si on va s'en débarrasser, on est plutôt sur le déclin. Mais ça, ce qui va se passer dans les années qui viennent, est une autre histoire. Finalement, l'éradication de la variole est un élément extrêmement fort dans l'histoire de l'humanité. Puisque, on l'a vu, la variole décidait de tellement de choses. Ça a été la mise en place de la première stratégie vaccinale. Il y a eu plein de choses qu'on a apprises, y compris cette approche de autour des cas qui permettait d'arriver à zéro cas. Et on s'est aperçu qu'on pouvait très bien vivre en se débarrassant d'un virus qui entraînait la mort de millions de personnes chaque année. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on n'a pas tiré toutes les leçons. D'abord, qu'on a vu avec la Covid, les campagnes anti-vaccination ont repris exactement les mêmes arguments que les campagnes anti-vaccination de la variole. Et les personnes qui ont diffusé ces arguments n'avaient même pas conscience qu'il y a 200 ans, d'autres personnes disaient la même chose, alors qu'on était sur le chemin de se débarrasser d'un fléau terrible. La deuxième chose, c'est que l'approche qui nécessitait des équipes sur le terrain a été perdue parce qu'on est revenu à cette histoire de campagne de vaccination extrêmement massive. Alors, des fois, c'est on peut pas s'en faire autrement quand une maladie circule à un niveau élevé partout. On peut pas faire autrement. Mais dans d'autres cas, quand on a une maladie qui circule à certains foyers et pas ailleurs, on devrait avoir des approches ciblées. On a perdu cette connaissance de l'approche ciblée et on l'a vu avec la Covid. Aller au devant des cas, essayer d'interrompre la transmission autour d'eux, n'a pas été l'arme utilisée, en tout cas dans les pays occidentaux, alors que ça a été l'arme utilisée dans les pays asiatiques avec une différence très très forte. Si on avait bien connu la stratégie de lutte contre la variole dans les années 70, on n'aurait pas fait cette erreur. Et on a actuellement les mêmes difficultés, par exemple dans la lutte contre le choléra, où on a du mal à imposer une stratégie ciblée, parce que finalement, la vision est une vision très globale en se disant on va créer un vaccin, diffuser le vaccin, mais on ne peut pas vacciner des milliards de personnes pour des milliers ou des dizaines de milliers de cas, ou peut-être des centaines de milliers de cas. L'échelle n'est pas la bonne. Je pense que si on réétudiait les textes qui ont été écrits sur la variole, alors il y a un petit bouquin sympa qui fait à peu près 1500 pages sur la variole et son éradication. Effectivement, quand on lit ça de près, on a des informations et on comprend les stratégies de lutte qui pourraient nous aider, y compris actuellement contre d'autres maladies. Rappelons-nous de la variole et rappelons-nous de tout ce qui s'est passé autour de la lutte, à la fois d'un point de vue positif et d'un point de vue négatif.
Mécanique des épidémies. Sixième saison, La variole, par l'épidémiologiste Renaud Piarou. Réalisation, Yvon Croisier. Retrouvez l'intégralité des saisons précédentes, choléra, sida, grippe, Covid et palu, sur franceculture.fr et l'application Radio France. Conseillère au programme, Camille Renard, avec la collaboration de Pascaline Bonnet. À la technique, Éric Boissé. Archivina, Juliette Cuif.